Radio Campus Angers recrute. Devenez bénévole. La radio foisonne d'activités où chacun trouvera sa place. Chroniques, reportages, animations. Rejoignez notre équipe de rédaction qui sera là pour vous accompagner. Même sans expérience, nos micros sont ouverts à toutes et à tous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur le www.radiocampusangers.com.
Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h sur Campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au sommaire du pédalo ce soir, quel avenir pour la culture et la création? Est-ce que le théâtre et la danse peuvent être des espaces d'expression afin de lutter contre les extrêmes droites? Quelle est la position du théâtre du Quai et du Centre National de Danse Contemporaine face à la montée des nationaux populismes dans la France et dans le monde? On en parle dans le pédalo avec Martial Di Fonzobo, Jacques Peignet, Noé Soulier et Marion Colletter. Un très très beau casting à bord du pédalo ce soir. On écoutera aussi un programme Radio Campus France, ça arrive près de chez vous. Radio Campus Paris est allé à la rencontre de l'association Copain qui organise des distributions alimentaires pour les étudiants et les étudiantes. Mais avant ça, évidemment, le flash info de Victor. Allez, c'est parti, ajustez bien votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Victor.
Salut Hugo et salut à tous.
Dans l'actu ce soir, le procès du journaliste Evan Gershkovitch s'est ouvert aujourd'hui en Russie.
Interpellé en mars 2023 par les services de sécurité russes, le journaliste américain du Wall Street Journal est reproché d'avoir collecté des informations sensibles pour le compte de la CIA, une accusation qu'il a entièrement rejetée. De son côté, Washington dénonce une affaire montée de toutes pièces. Son procès a débuté aujourd'hui à huis clos dans le tribunal d'Ekaterinbourg.
Hier au Kenya, les manifestations contre le gouvernement ont provoqué une vague de violence.
Le pays connaît sa troisième manifestation en 8 jours. Des tensions provoquées par un projet de loi de finances sur les taxes qui concernent notamment le pain et les voitures. Hier, plusieurs centaines de personnes ont saccagé le Parlement. Les policiers ont tiré à balles réelles sur les manifestants et l'armée a également été appelée en renfort. Des violences qui ont provoqué pas moins de 13 morts.
À quelques jours des élections législatives, le gouvernement a annoncé la dissolution de plusieurs groupes d'ultra-droite.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait affirmé dissoudre le syndicat étudiant Groupe Union Défense, connu pour ses actions violentes. Par ailleurs, une des responsables a été condamnée à une amende de plus de 1440 euros pour menace de mort et injure publique. À l'instar du GUD, 3 autres structures d'ultra-droite situées à Lyon ont également été dissoutes.
Le GUD donc. À un mois pile des Jeux Olympiques, le préfet d'Île-de-France a assuré que la cérémonie d'ouverture devrait bien se dérouler sur la Seine. Quant à la baignabilité, la question reste un peu plus taboue par contre.
Le spectacle devrait se dérouler sous forme d'une parade nautique d'Austerlitz jusqu'au Trocadéro. Les athlètes olympiques seront donc bien présents sur une centaine de bateaux. Une fête qui sera sûrement de courte durée puisque le préfet d'Île-de-France, Marc Guillaume, a affirmé que la baignade est à ce jour impossible, soi-disant à cause d'une météo d'automne ou d'hiver. On rappelle que d'après des tests réalisés à la mi-juin, les bactéries fécales que contient la Seine était largement supérieure aux normes.
D'après une étude, la qualité de l'air est très mauvaise en ce moment à Angers.
Les fortes chaleurs ont favorisé la production d'ozone, ce qui a entraîné une augmentation de ce polluant dans l'air. Il faut toutefois relativiser puisque ces concentrations devraient rester en dessous du seuil d'information et de recommandation, a précisé Air Pays de la Loire.
3 maires de la circonscription Angers-Mauges ont appelé à faire barrage au Rassemblement National.
Yves Colliot, maire de Beaucouzé, Jérémy Giraud, maire de Savenir et Christophe Douget, maire de Montrevault-sur-Èvre, ont diffusé un communiqué commun dans lequel ils appellent à voter dès le premier tour des législatives contre le parti de l'extrême droite. Il faut faire face au risque d'une victoire d'un projet incompatible avec nos valeurs, ont-ils ajouté, une position également soutenue par le sénateur écologiste et solidaire Grégory Blanc.
Eh bien, merci beaucoup Victor et à demain pour ton dernier Flash Info.
C'est ça.
La fin du stage approche à grands pas malheureusement.
Je suis déjà nostalgique.
Attends, assure demain déjà. Merci beaucoup Victor, à demain.
Merci.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Ça arrive près de chez vous. Radio Campus Paris est allé à la rencontre de membres de l'association Copains qui organise des distributions alimentaires pour les étudiantes et les étudiants partout en France.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous.
Ça arrive près de chez vous. Un programme proposé par les Radio Campus.
Ça arrive près de chez vous. Comment vont celles et ceux qui donnent vie à votre territoire ?
Ah ouais ? Ah oui, t'as pris un couteau, parfait. Du coup, merci à tous d'être venus pour cette distribution alimentaire. Comme vous
êtes... Moi, du coup, c'est Louis Desclous. J'ai 22 ans. Je suis en école d'ingénieur à côté de Copains. Là, je suis en M1 du coup. J'ai rejoint Copains plutôt récemment, on va dire, même si ça fait quand même un bon moment. C'était en septembre-octobre de l'année dernière. J'avais vu des pubs dans le métro pour le festival et en fait, c'est un peu ça qui m'a mis le pied dans l'assaut. Là, actuellement, je suis, comment je pourrais dire mon rôle en soi, bénévole simple, mais j'ai aidé à ouvrir l'antenne de Bordeaux. Je suis aussi actif dans le pôle sport et le pôle culture. Mais globalement, enfin, voilà. Et du coup, je fais pas mal de distribution en semaine. Copains, du coup, c'est une association qui lutte contre la précarité étudiante. Donc sur plein de volets différents. Le volet majeur, c'est la distribution alimentaire. Mais il y a plein d'autres choses à côté parce que la précarité, c'est pas que forcément l'alimentation. Comme j'ai dit plus tôt, il y a le culturel, le sportif. En fait, on accompagne des bénéficiaires qui n'ont pas forcément l'occasion d'assister à ces événements-là. Il y a aussi du juridique, de l'accès à l'emploi, plein de choses comme ça. Voilà. L'asso, elle a été créée il y a 3 ans pendant le Covid. C'est le moment où ça a été vraiment médiatisé, la précarité étudiante, notamment justement avec le Covid, le côté social où les gens n'avaient plus accès aux rencontres, etc. Et elle a pris, elle a énormément grandi sur ces dernières années. Et là maintenant, on est sur, je ne vais pas dire de bêtises, mais 22 antennes en France, je crois, dont 2 en Outre-mer, ou 3, 2 en Outre-mer, je crois. Voilà. C'est des activités soit régulières, donc on peut contacter des professeurs de sport, des professeurs de basket, de yoga, plusieurs activités différentes, mais également des événements. On avait un assez gros partenariat avec le PSG, on a pu donner du coup des places à des bénéficiaires, où du coup il y a genre 15-20 bénéficiaires et un ou deux bénévoles qui accompagnent pour regrouper le groupe, compter qui vient, qui n'est pas là, et donner l'opportunité d'accéder à des choses qui sont très chères et dont tout le monde ne peut pas avoir accès. Sur Paris, on essaye d'avoir 4 distributions par semaine, avec 2 lieux différents, 3 lieux différents, je crois. Ouais, 3 lieux différents. Sur le nombre de personnes aidées, je ne saurais pas te donner le chiffre exact. Je sais qu'on aide plus de 200 personnes par distribution, mais en fait, je n'ai pas envie de m'avancer sur un chiffre parce que je ne le connais pas. Mais voilà. C'est des paniers repas du coup, avec plutôt diversifiés. On essaie d'avoir des produits, des fruits et légumes de qualité le plus bio possible. Donc ça c'est le premier point, fruits et légumes, il y a féculents, il y a conserves, il y a produits d'hygiène. Ça c'est un truc important qui est souvent un peu oublié dans les distributions. Enfin, en même temps, quand on pense à la distribution alimentaire, on ne pense pas forcément à ça, mais c'est un point qui est important pour nos bénéficiaires. Et est-ce que j'en oublie un dernier, conserve, féculent ? J'en oublie possiblement un dernier, mais voilà, globalement. On a pas mal justement de voies différentes pour récupérer. Il y a à la fois des commandes que nous on passe via des dons financiers qu'on peut recevoir. Il y a des dons directement en nature, donc des produits. Il y a aussi des collectes qu'on fait très régulièrement, souvent le week-end. Où du coup on va dans les supermarchés de la même façon que peut le faire la banque alimentaire ou les Restos du Cœur à récupérer les aliments directement au supermarché à la fin des caisses. On se rend compte que ça diminue pas, le problème il est partout. L'objectif de l'asso c'est de l'étendre au plus de villes possible pour toucher le maximum d'étudiants. Donc voilà, globalement depuis 3 ans le problème est là, le problème bouge pas trop, avec l'inflation ça aide pas. Je ne saurais pas dire si ça augmente ou pas. J'avoue, je n'ai pas forcément les chiffres. Je pense personnellement que ça augmente. Mais voilà. Est-ce que les gens sont de plus en plus mobilisés? Je ne saurais pas dire. Je sais qu'en tout cas, les dons pour l'association augmentent parce que, de manière générale, l'asso prend en volume. Donc, du coup, forcément, bah, ça, les dons aussi, les dons suivent. De là à dire que c'est lié au fait que les gens se mobilisent, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est sûr que ce n'est pas forcément simple de se financer. Mais l'asso arrive quand même à plutôt bien grandir. En 3 ans, la taille qu'on a pris en 3 ans, je trouve très impressionnant pour une association comme ça. Donc y a quand même on arrive à trouver des subventions comme ça, d'entreprises privées ou des donneurs particuliers. Mais forcément, il faudrait plus. Forcément des financements, des bénévoles et assez de communication pour pouvoir toucher le public que nous on souhaite viser, donc les étudiants en précarité. Donc globalement, c'est les 3 points majeurs, je dirais. Bah, on compte encore ouvrir pas mal d'antennes. Je crois qu'il y en a un peu moins d'une dizaine qui se sont ouvertes l'année dernière. Donc là, forcément, l'asso a 3 ans. Donc là, au début, c'était un peu comment on fonctionne, etc. Là, on monte en volume. Le but, c'est de viser toutes les villes qui ont plus de 20 000 étudiants. Donc on vise à peu près 7-8 villes l'année prochaine d'ouverte. Enfin, soit des nouveaux lieux dans les villes déjà impliquées, soit des nouvelles villes totalement. Voilà, globalement. Donc 7-8 villes, à peu près. Ouais, c'est un équilibre. Je dirais pas qu'on est en manque de bénévoles. Enfin, ça dépend pas mal des périodes. Par exemple, les périodes d'examen, comme nous, c'est les étudiants qui aident pour les étudiants. Les périodes d'examen, c'est le moment où bah, on se fait un peu forcément passer au second plan, ce qui est totalement normal pour les étudiants. Mais c'est les périodes où du coup, il y a moins de bénévoles et on peut être plus en galère. C'est une grosse partie, je sais pas, mais en tout cas c'est un chiffre significatif de personnes qui sont aidées, qui souhaitent aussi redonner un peu à l'association. Et je saurais pas dire combien de pourcents, mais ouais, il y a pas mal de bénévoles qui étaient bénéficiaires à la base et qui s'impliquent à fond dans l'association pour développer ça, quoi. Oui, on ressent les décisions politiques. Première mesure auxquelles on peut penser, c'est le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Ça c'est une mesure que nous on aurait aimé évidemment au CROUS, mais parce qu'on se rend compte que finalement même si on n'est pas boursier, on peut être en précarité, on peut être dans le besoin, et le repas à 1 euro c'est pour les boursiers, donc c'est quelque chose qui est très bien de le garder pour, enfin, que ce soit accessible à 1 euro pour les boursiers, c'est bien, mais la précarité n'est pas que là, malheureusement.
C'était Ça arrive près de chez vous sur l'association Copain. Vous êtes bien à bord du pédalo sur les ondes de Radio Campus Angers. C'était un reportage de nos copains de Radio Campus Paris. On se laisse quelques instants en musique avec Wandering Around de Akia. Vous allez voir, ça bounce, c'est cool. Et on revient juste après pour l'interview avec Martial Divonzobo, Jacques Peignet, Marion Colletet, Renaud Soulier du Quai CDN et du CNDC. A tout de suite sur les ondes de campus, restez bien avec nous.
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
On écoute maintenant cet échange avec Martial Di Fonzobo, Jacques Peignet, Marion Colletter et Noé Soulier. Un entretien enregistré hier au sein même du Théâtre du Quai, juste avant la présentation en public de la nouvelle saison à venir, la saison 2024-2025.
On est en plein cœur du théâtre du Quai et à l'étage avec le Quai et le CNDC. Et avec moi, Martial Di Fonzobo, Jacques Peignet, Noé Soulier et Marion Colletter. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes respectivement à la tête du Quai et du CNDC, le Centre de danse contemporaine ici à Angers, et le Centre dramatique national, donc le théâtre. Hier, à la sortie de la conférence de presse, on a commencé un peu à échanger ensemble sur l'arrivée possible, peut-être pas, ça dépend de nos optimismes à chacun, de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et du climat politique actuel. J'aimerais commencer par une question simple, Martial. Est-ce que vous êtes inquiet ?
Oui, bien sûr. Mais on est inquiet. Disons que l'inquiétude se précise. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est pas. Voilà, il fallait s'y attendre. Je pense qu'il y a un mouvement en Europe. Les élections européennes l'ont confirmé. Il n'y a pas que la France. En France, la situation est plutôt, voilà, d'autant plus inquiétante qu'elle surpasse un peu les prédictions qu'on a pu avoir. L'inquiétude est là, oui, évidemment. Je pense aussi qu'au-delà de, voilà, que c'est le moment, enfin, l'inquiétude précise de l'arrivée au pouvoir, enfin, aux clés du gouvernement du Rassemblement national en est une, mais je pense que cette situation dure depuis un certain nombre d'années et que petit à petit, nos institutions se sont dégradées et peut-être se poser la question de comment on en est arrivé est importante, de se dire que, voilà, qu'il y a eu, voilà, je parlais l'autre jour au public de l'Argentine parce que je suis argentin et là-bas les choses sont pas comparables pour un certain nombre de points, mais quelque part il y a des ressemblances, il y a des choses qu'on peut ici ou là en tirer comme conclusion. Évidemment, oui, l'inquiétude, pour répondre très précisément à la question, je suis inquiet et je suis inquiet depuis un moment en fait.
Est-ce que c'est le rôle d'une structure comme le Quai ou bien comme un centre dramatique, un centre national de danse contemporaine, de prendre position politiquement, Jacques Peignet ?
Évidemment qu'on peut s'exprimer d'abord à titre individuel. Après, comme institution, on ne va pas prendre le public en otage et les gens, on ne va pas être en position de surplomb pour déclarer ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait voter. En revanche, on peut, et on le fait à travers toutes nos actions, à travers nos programmations, à travers les artistes qu'on invite, on défend évidemment des valeurs dont on peut dire qu'elles sont pas, ou elles sont contraires à celles que prône le Rassemblement National. Donc dans ce sens-là, évidemment qu'on ne peut pas proposer une absence de discours, puisque déjà dans ce qu'on présente, les spectacles qu'on propose, inviter des artistes étrangers, dans les sujets qui sont abordés dans les pièces, on prône évidemment des valeurs et aussi simplement la complexité de la société, d'éviter des solutions simples qui sont souvent celles proposées par les politiques comme celle du Rassemblement National.
Noé Soulier, est-ce que vous avez la sensation que les arts vivants que vous représentez ont un rôle à jouer pour la démocratie et de manière générale un rôle à jouer contre la montée des populismes ?
Oui, je pense qu'ils ont un rôle important à jouer. Qu'ils ont joué déjà ce rôle, en fait, que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'institutions qui se sont engagées depuis des décennies pour faire en sorte que la culture soit partagée par le plus grand nombre possible et que la culture soit diverse, qu'elle soit multiple, qu'elle partage effectivement des idées, des valeurs. Je pense qu'on a la chance, en fait, en France, d'avoir quand même un tissu culturel, un service public de la culture qui existe, qui est là et qui fait que dans une ville comme Angers et dans beaucoup, beaucoup d'autres villes en France, il y a un accès, en fait, à la culture qui n'existe pas dans d'autres pays. Et je pense que ça, c'est très précieux. Et au fond, c'est vraiment ça qui est inquiétant et si c'est ça qui est remis en cause, en fait, l'existence même de ces institutions-là et le... Et aussi, parce que je pense qu'il y a une dimension très forte dans le fait que ces institutions sont à la fois des institutions de création, donc des endroits où s'inventent de nouveaux imaginaires, où s'inventent de nouvelles représentations de la société, où peuvent être aussi remises en cause certaines hiérarchies, certaines normes, et qu'en même temps, au même moment où ces normes peuvent être remises en cause, elles peuvent être partagées, en fait. Et c'est ça qui est fondamental pour moi.
Marion Colletter, pour vous, qui êtes aussi à la tête d'une école et d'une institution qui forme les danseurs et les danseuses de demain, est-ce que le Rassemblement national et ce qu'il propose peut aussi ça peut être une crainte quant à l'avenir même de cette école et quant à l'avenir de la profession même de danseur, de danseuse en France, tant soit peu qu'on puisse appeler ça une profession?
Alors je crains que malheureusement, en tout cas, ça les rende beaucoup plus fragiles, ces institutions ou ces écoles, ces endroits de formation, ces endroits où effectivement il y a une liberté de penser, de créer ce que l'on défend tout, ce que l'on défend là dans nos activités depuis un moment et qu'on a l'intention de continuer à défendre. Donc de ce que nous pouvons lire en tout cas, ce n'est pas cette ouverture-là que prône le Rassemblement national, mais... au-delà de ça et au-delà de, j'ai envie de dire, de notre propre activité artistique et culturelle, comme l'évoquaient mes collègues dans les paroles précédentes, c'est plus globalement le service public, en fait, qu'il faut défendre, justement. Un lapsus, malheureusement, un peu révélateur, qu'il faut défendre et pour lequel on est tous là engagés. Et ce service public-là, il est ouvert à tous et à toutes, à la pluralité, effectivement, hein, aux différences, etc. Et c'est ça qu'on veut défendre. Et nos promotions d'étudiants et étudiantes, effectivement, sont la photo, en tout cas, de cette pluralité du monde et de la France, en fait, aujourd'hui. Donc j'espère qu'on... Je suis optimiste aussi et je suis sûre qu'on arrivera encore à défendre ça.
Martial, tout à l'heure, vous parliez de l'Argentine avec l'arrivée au pouvoir de ce populiste qu'est Javier Milei. Quelles sont les incidences de l'arrivée au pouvoir de Javier Milei sur la création et sur toutes ces institutions culturelles qui peuvent aussi exister en Argentine? Peut-être hier, vous aviez l'exemple, par exemple, du centre de cinéma, l'équivalent du CNC.
Oui, on peut parler de ça, mais moi j'ai les sentiments, enfin ce que je vois depuis 6 mois de Javier Milei donc en Argentine, on voit bien en fait comment à travers le journalisme, à travers la parole des artistes, on essaye aussi de contrôler la pensée, en fait, c'est connu hein, dans tous les états totalitaires, il y avait aussi des artistes qui était interdit. Moi, j'ai vécu la dictature militaire et c'est vrai que cet endroit de parole que prônent des artistes, et comme disait Noé tout à l'heure, c'est vrai que c'est très souvent aussi lié à des mouvements d'émancipation historiques. Je veux dire, ils ont... Beaucoup d'artistes ont participé à l'acquisition de droits, des droits civiques, de la liberté, quelle qu'elle soit. Je veux dire, c'est pas seulement des questions artistiques, je sais pas comment dire. Ce sont des questions qui sont plus larges que ça. Et je pense que les mouvements artistiques souvent accompagnent cette évolution de la société. Et je pense que c'est cette entrave première à la liberté d'expression forcément, c'est bien visé, je ne sais pas comment dire, parce que forcément, pour revenir à l'exemple dont vous parliez du CNC, qui est le Centre National de la Cinématographie en France, en Argentine, a été calqué le même système qui s'appelle INCA, qui consiste en un écosystème financier de voilà que les grands films, le grand, enfin je veux dire pas les grands films, mais plutôt les films qui attirent un grand public, les blockbusters américains, etc., ou pas que, hein, même les films qui fonctionnent très bien et qui sont très bien, il en existe, puissent contribuer à la production des nouvelles œuvres. Donc très simplement, quand vous allez au cinéma, une partie de votre ticket va à la production, à l'accompagnement en tout cas des projets nouveaux, des projets naissants. Bon, après, actuellement par exemple, à la tête du Centre national de cinématographie, il y a aussi l'intervention d'une nouvelle politique déjà qui est, je parle de ce qui se passe actuellement, pas de ce qui va se passer après les 7 juillet. Donc déjà, une institution comme le Centre national de la cinématographie en France est intervenue, je ne sais pas comment dire ça mieux, par une direction, par une ligne éditoriale quand même très différente qu'il y a 10 ans. Donc tout ça va, tout ça prendre du chemin, ce que je disais tout à l'heure par rapport à une situation globale et pas du tout nouvelle. Et en Argentine, donc typiquement, ce système de redistribution, je dirais, des gains de la cinématographie, donc a été fermé sans raison apparente, puisqu'il s'agissait de couper les subventions, or que là, il n'y a pas de subvention, donc il n'y avait pas de raison financière d'un redressement ou d'une espèce de serrage de budget, ce n'était pas du tout, c'est complètement autonome. Donc là, on voit typiquement que la volonté de l'extrême droite en Argentine est de couper la parole. Et donc des nouveaux films qui, en plus, et socialement, c'est une catastrophe concrète. Je veux dire, il y a des dizaines de films qui sont arrêtés. Et quand on parle d'un film, on parle d'une équipe importante, de techniciens, d'artistes, le développement économique du cinéma. Enfin, vous le connaissez sûrement. Donc c'est sûr que c'est une mesure sociale punitive et très 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 forte, mais ce qu'on cherche à faire là, c'est pas autre chose, enfin je vois pas comment on peut expliquer ça autrement que de couper, d'interdire les espaces de parole, là dans les dernières manifestations qui contestent donc les réformes qui sont en cours en ce moment, on revient à une répression policière très 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 musclée. Je ne vais pas parler de 2-3 ans qui viennent de s'écouler en France. On a déjà vu ça, on l'a connu ça. Donc, j'ai des sentiments que l'inquiétude n'est pas nouvelle. Et je pense que c'est le moment d'affirmer, comme on fait autour de cette table, le rôle du service public. En Argentine, en 6 mois, là-bas, ça va très vite, ils sont brutaux, un peu, c'est un pays qui a une vitesse qu'on ne connaît pas en Europe, où les choses sont beaucoup plus préservées, en quelque sorte. Là-bas, il s'agit parfaitement de détruire l'État.
On parle de services publics, effectivement, la création fait aussi partie des services publics proposés ici à Angers à travers du Théâtre National du Quai, mais aussi du CNDC. Noé Soulier, vous êtes directeur, vous êtes à la tête du CNDC. Est-ce que ça vous évoque un peu des réflexions philosophiques, éthiques, dans votre manière de penser la danse, dans votre manière de penser un peu votre rapport à votre art, ce qui est en train d'arriver en ce moment en France, et le contexte que vient de rappeler Marcel Di Fonzobo?
Ben, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre aussi une énorme mutation dans le rapport à l'information. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les gens savent. Enfin, on s'informait principalement avec la presse, la radio, la télévision. Là, il y a eu l'explosion des réseaux sociaux, d'Internet. Et je pense qu'on n'a pas encore réussi en tant que société à... En fait, quand la presse a explosé au début du XXe siècle, il n'y avait pas de codes éditoriaux, il y avait énormément de diffamation dans la presse, il y avait une presse qui était complètement folle en fait, enfin qui nous apparaît rétrospectivement folle et qui a aussi probablement contribué à la montée des totalitarismes en fait. Et moi ce qui me pose question aujourd'hui c'est que j'ai l'impression que, et d'ailleurs aussi quand on voit historiquement les pays comme l'Italie où Silvio Berlusconi a privatisé tout le système des médias et de la télé et de la presse et ensuite est arrivé au pouvoir. Et quand, aujourd'hui, il y a Giorgia Meloni. Aux États-Unis, il y a eu Fox News. Les choses aussi se sont faites. C'est-à-dire que pour moi, les mouvements autoritaires, l'extrême droite, elles naissent aussi dans un certain terreau, en fait, où il n'y a plus d'espace de pensée et où il n'y a plus d'espace de discussion possible en fait, et où les gens réagissent par rapport à des mèmes, par rapport à des images, par rapport à des courtes vidéos et par rapport à des stéréotypes en fait. Et ça, si le débat public se produit sous forme de stéréotypes et d'images immédiates qui font appel en fait à nos pulsions, et bien ça c'est le meilleur terreau possible pour tous les extrémismes en fait. Et c'est là où le théâtre a un rôle à jouer, parce que pour moi, ce qu'on propose ici, c'est exactement l'inverse de ça. C'est de passer du temps ensemble, ce qui demande aussi un engagement du spectateur, mais de passer du temps dans une salle ou dans un atelier ou dans une fête d'ailleurs, mais c'est de passer du temps ensemble et aussi peut-être avoir des choses qui sont différentes de ce qu'on connaît déjà ou qui ne correspondent pas exactement à ce qu'on attendait, d'être surpris, d'être dérouté peut-être parfois. Et pour moi, c'est ces espaces-là qu'il faut maintenir, qu'il faut préserver, qu'il faut créer et qui sont les meilleurs remparts en fait à une polarisation. Enfin, je veux dire, aux États-Unis aujourd'hui, ça fait peur. Je voyais que le prochain débat entre Joe Biden et Trump, les commentateurs vont pouvoir bloquer les micros en fait entre ces deux personnes, parce que c'est la seule manière d'avoir, enfin parce que la dernière fois ils se sont insultés en fait pendant 2 heures en fait, donc ça veut dire que la seule manière d'avoir une sorte de débat pseudo-civilisé, c'est de pouvoir couper le micro des gens, enfin on en est arrivé là quoi. Donc je pense que il y a un peu la question de comment on crée des espaces de dialogue, des espaces d'échange, des espaces d'expérience commun, et je pense que vraiment au CNDC, à tous les niveaux, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est là où pour moi c'est important, à notre échelle, à notre position, mais je pense que c'est important qu'à tous les niveaux où ça peut se produire dans la société, on crée ces espaces de partage, en fait.
Et ça, Marion Colletter, le festival Conversation était peut-être un peu précurseur. Ça permet de se faire rencontrer les pratiques, les danses, les manières d'être ensemble, les manières de concevoir ensemble l'art comme un espace de lutte. Je ne sais pas si c'était ça l'objet initial de Conversation, mais c'est peut-être la lecture qu'on peut en avoir aujourd'hui. Enfin, je voulais vous laisser vous interpréter ce que je suis en train de dire plutôt que de le dire à votre place.
Oui, en tout cas, c'est une piste, l'idée de Conversation et d'une manière générale, je pense, de l'ensemble de nos programmations ici au Quai, c'est de créer l'échange, effectivement, de partager un moment ensemble et de pouvoir en discuter, échanger, et tous les publics n'auront évidemment pas la même lecture, pas le même ressenti, pas la même, le même plaisir non plus à voir ça. Et le spectacle est là justement pour ouvrir cette possibilité d'une lecture différente pour chacun, mais que chaque lecture a sa place aussi, chaque regard a sa place. Donc c'est revenir à ces espaces en fait de partage où l'ouverture et la tolérance sont primordiales, et c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place ici.
Jacques Peignet, hier on a un peu parlé aussi du modèle économique, hein, des structures dans lesquelles vous êtes. Il y a effectivement les dangers que peuvent représenter les évolutions à la tête de l'État pour les services publics, mais il est quand même bon de noter et de rappeler, et vous l'avez fait hier en conférence de presse, qu'en fait une grande partie de vos financements émane aussi et surtout de la municipalité. Peut-être que je vous laisse réagir à ça.
C'est vrai que le modèle économique particulièrement au Quai est très... Le financement du Quai principalement de la mairie, donc de la mairie d'Angers. Donc ça nous protège un peu. Ce cofinancement des collectivités locales et de l'État est un modèle qui est né en France après la guerre. Et donc ça, évidemment, c'est des contre-pouvoirs. Parfois, l'État a été là pour protéger des théâtres dont les mairies attaquaient et les budgets et la programmation. Et peut-être on sera amené dans les années à venir à ce que les mairies nous défendent face à l'État. On l'espère pas, mais en tout cas, c'est sûr que ce cofinancement est quand même une protection. Après, il faut vraiment défendre ce qu'on dit là, les services publics en général et celui de la culture. Ce matin, j'entendais un des candidats à l'Assemblée nationale dire qu'il va privatiser la radio publique. Évidemment que c'est un modèle qui est celui du capitalisme et de l'argent, et évidemment qui provoque pas une diversité des pensées et de la création. On sait bien que l'art et la création a besoin de soutien financier pour, parce qu'effectivement, il n'est pas dans un domaine marchand immédiat. Donc, on a à la fois, nous, on vit aussi des recettes, mais elles sont un des éléments dans notre économie. On a vraiment besoin et des subventions pour permettre effectivement un accès à un public plus large, sans mettre des tarifs qui seraient à 50 ou 100 euros, et aussi de risquer la création, d'inviter des jeunes artistes pas encore connus. On cite souvent Joël Pomera, qui est maintenant repris par le privé. Pendant 20 ans, il a joué dans des salles avec très peu de public et avec des financements publics. Donc c'est ça qui permet qu'un artiste comme celui-là, pendant des années, peut travailler sans être rentable. Et puis à un moment, effectivement, son écriture est reconnue et public plus large y accède. Et du coup, une autre économie peut se mettre en place. Mais en tout cas, tout ce travail de défense de la création artistique, il a besoin de soutien financier.
Marcel, je vous avais vu prendre plein de notes. Peut-être un dernier mot pour conclure ces échanges. Vous, est-ce que vous êtes, et c'est un peu le propos qu'on avait hier en se quittant, mais est-ce que vous êtes optimiste pour la suite ?
Je suis combattant plutôt. Enfin, il y a une sorte de, voilà, de... Oui, de lucidité, de se dire que, voilà, c'est pas forcément optimiste seulement. Enfin, forcément, je veux que ça se passe bien. Mais je pense qu'il faut être alerte, il faut être combatif, il faut être présent, il faut être... voilà, il faut être avec vous, là, aujourd'hui. Non, les notes, c'est tout simplement parce que ce soir, on fait donc notre présentation de saison. On attend le public et voilà, je pense qu'on se doit aussi voilà, de rappeler, à mon sens, la meilleure façon, c'est de rappeler pourquoi on est là et quelles sont les missions et d'où elles viennent. Et à un moment, on en est là, tant pis, hein, mais il faut rappeler les combats qu'il a fallu pendant des décennies pour acquérir ces droits. Pour acquérir, voilà, et c'est pas fini, et c'est très fragile. Et en une nuit, on peut tout arrêter.
Peut-être en un mot, qu'est-ce que vous allez leur dire justement au public ? On parlait en début d'échange de ne pas prendre le public en otage, mais qu'est-ce que vous allez leur dire justement sur la situation actuelle et sur le rôle du Théâtre du Quai et du CNDC ?
Bah, je ne vous ferai pas lire mes notes. Non, bah, justement, l'idée, c'est qu'on puisse à quatre partager déjà un message commun. Je pense que si à quatre, on arrive à définir comment parler, je pense que ça sera déjà une réflexion, un début de réflexion.
Eh bien, cette interview comme réunion préparatoire aux échanges de ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ces échanges autour de la démocratie et de la culture. Longue vie à la création et longue vie au Théâtre du Quai, au CNDC. Merci beaucoup à tous les quatre.
Et le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain avec Olivier Perret et le collectif Paix. Plus de 10 000 chrétiens et chrétiennes se mobilisent et appellent à voter massivement contre les extrêmes droites. A très bientôt sur le Centre FM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.